Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Nous ne sommes pas dans les studios de Divergence une fois de plus. Nous sommes de retour dans l'atelier où j'étais il n'y a pas si longtemps avec l'artiste Arcane. On est aujourd'hui avec un des locataires de l'atelier. On est avec Oz.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce qu'on t'appelle d'abord? Est-ce qu'on t'appelle toujours Oz ou pas? C'est un grand sujet.
Olivier,
on peut t'appeler Olivier,
Olivier? Très bien.
Ok, Olivier, c'est très bien. Alors on est dans l'atelier. On a Camille Adra, qui est le troisième locataire de cet atelier, qui est en train de peindre. Donc, si
bonjour.
Vous... voilà, si on l'entend, c'est normal. Olivier, merci de nous accueillir.
Ben, merci à vous de venir.
Aujourd'hui. Enfin, de nous accueillir, de m'accueillir, moi, toute seule, déjà. Et ben, comment on fait...
Il y a toute une équipe, là, ils ne sont pas au courant.
Oui, c'est vrai, il y a tout le monde qui nous regarde. comme je le fais un peu avec chaque artiste, on va parler de ton parcours, de comment tu es arrivé là, aujourd'hui, de ta carrière, etc., etc.
Ok.
Donc, ben, très simple, qui tu es, d'où
j'aime
tu viens.
Bien quand tu parles de, quand tu dis ma carrière, c'est beau, c'est beau.
Mais oui, c'est beau.
qui je suis? Je suis Olivier. Ça commence mal, tu vois, avec les E.
Oui, bah ouais, on peut pas lutter, c'est comme ça. T'inquiète.
J'ai 39 ans.
Je déjà vis,
Ouais.
Ah ouais,
ouais, je vais en avoir.
Il les fait pas, hein.
Ouais, c'est sympa. Et voilà, je fais des pochoirs depuis une quinzaine d'années,
ouais.
Bientôt. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
Salut, allez, soirée. Au revoir, merci, c'était cool. Alors attends, parce que tu fais des pochoirs. Revenons à la base. Est-ce que tu as, comme certains, toujours dessiné? Est-ce que tu as toujours eu un attrait pour l'art? Enfin, quel a été comment tu as mis un pied dedans?
Alors, ça s'est fait, je pense que je peux dire que ça s'est fait en deux phases. Quand j'étais petit, le premier point marquant, ça a été l'expo de Soulages, en 97, je crois, au Musée d'Art Moderne de Paris. Je devais avoir 12 ans, je crois. Et j'ai eu envie d'aller voir cette expo, très bizarre, alors que quand même, c'est un mec qui peint du noir. À 12 ans, c'est bizarre. Et j'ai vraiment adoré, j'ai passé 3 heures, je m'en souviens, c'était extraordinaire, j'étais avec ma mère et tout. Bref, et de là, je me suis toujours intéressé à l'art, et particulièrement l'art contemporain. C'est ça qui est l'art abstrait, l'art contemporain. Hartung, Soulages, De Staël, Nicolas De Staël, Rothko, j'adore.
Bref. Ouais.
Voilà. Et puis, après, bon, j'ai fait un cursus classique en faisant des études littéraires. Voilà. Ensuite, j'ai fait Sudoku. Et ça n'a pas marché.
Ah!
J'ai fait deux ans, je me suis rendu compte que c'était... Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, parce qu'on apprend plein de trucs intéressants.
Ouais.
Mais par contre, les métiers sur lesquels ça débouche, c'était pas du tout fait pour moi, j'étais pas du tout fait pour l'entreprise.
Tu te voyais pas là-dedans, quoi.
Mais j'étais un très mauvais employé, je me souviens. J'ai fait un stage marketing, à la fin, ils m'ont mis la moyenne à peine.
Ils ont manière de dire, on te met la moyenne,
non,
pourquoi tu passes
un enfer.
Ceci dit, je te vois vraiment pas trop dans ce milieu. Non, non, non.
Et d'ailleurs, mon nom Oz, c'est de là que ça vient. Parce que mon dernier stage, on était appelé par nos trigrammes d'entreprise.
Okay.
Et le trigramme d'entreprise, c'est la première lettre du prénom et les deux premières lettres du nom de famille.
Ah,
et ça faisait Oz. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça fait un petit pied de nez à mon ancienne vie. Voilà.
Ouais, mais moi, je te l'ai déjà dit, parce que bon, c'est quand même un sujet, ton nom, n'est-ce pas? Et moi, je trouve qu'il est, très cool, il est facilement identifiable, en fait. C'est court et je sais pas, il y a la sonorité ou quoi, je trouve qu'elle...
Bah écoute, c'est gentil, mais en fait j'ai l'impression de pas l'avoir vraiment choisi parce que, comme tu sais, j'ai eu envie de changer 100 fois de nom, au Scottingart, aux Artwork, mon nom civil,
vraiment, ouais.
Voilà, enfin bref. Et puis à chaque fois, bah non, je revenais sur Oz parce que, je sais pas, j'aime bien le verbe, c'est doux, voilà.
Oui, c'est très simple, doux, effectivement, ouais. Ouais, mais tu vois, si tu reviens, c'est qu'il y a quand même quelque chose.
Bah voilà, exactement. Donc ça reste.
Faut pas lutter, c'est comme quand on dit.
Après, le travail d'atelier, maintenant, je signe de mon nom civil, Olivier Secrétan.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah d'accord.
Ouais, parce que c'est un travail plus intime, plus personnel. Okay. Et à un moment, du coup, j'assume qui je suis, quoi, tu vois.
Mais si tu devais faire une fresque, tu signerais quand même plutôt Ose.
Oui, parce que ça, c'est le travail de rue. C'est ce qu'on appelle communément le street art ou l'art urbain. Et ça, c'est un travail que j'ai fait pendant quelques années en posant des pochoirs dans la rue, de façon vandale. Et donc, c'est là où j'utilisais mon nom Ose. Et donc, j'ai aucun problème sur une fresque à signer Ose.
Ok.
Voilà, ça dissocie un peu de travail, de travaux, pardon. L'un qui est plus personnel et l'autre qui est plus pour
l'espace public, quoi.
Ouais, voilà, pour tout le monde.
Ok. Donc du coup, tu parles du pochoir. Comment tu y es venu? Parce que j'imagine que ça n'a pas été non. Enfin, est-ce que
alors,
ça a été
ça,
une
c'est la deuxième phase. Tu vois, j'avais dit c'est une plusieurs phases. Alors, ça, c'est la deuxième phase. C'était à Subdeco. C'était dans ma deuxième année. Et je me souviens, j'étais avec des amis à une soirée. Vraiment, ça allait pas. Hein. Franchement, j'avais décroché. Je venais de perdre mon père. C'était compliqué.
Ouais, un peu sombre.
Ouais. J'avais des addictions et tout, c'était compliqué. Et à cette soirée, comme ça, chez des potes, on discute et deux amis, s'ils se reconnaissent, hein, Christophe et Jean, m'ont sorti le bouquin de Banksy, World in Peace.
Ok.
Tu vois. Et disponible pour 29,99€ à... Je ne sais pas la marque. Voilà. Et j'ai commencé à regarder, et franchement, ça a été une révélation. Mais c'était tard, hein, c'était en 2010, tu vois, donc moi, je suis arrivé hyper tard. Et là, la révélation, toute la soirée, j'ai cogité, j'ai emprunté le bouquin, machin. J'ai commencé à regarder ce qu'était ce mouvement et tout, et j'avais l'impression que c'était pas connu, alors que moi, j'arrivais après la guerre, tu vois. Enfin bref. Mais en tout cas, ça m'a vachement intéressé. Et d'ailleurs, au début, je suis parti pour en faire la promotion. C'est-à-dire que mon idée, c'était d'aller voir les street artistes et de faire des interviews comme tu es en train de faire.
Ah,
exactement.
D'accord, voilà. Ok.
Et ce que j'ai commencé à faire.
Ok.
Donc, un jour, je suis allé voir à Paris, je suis allé voir Epsilon Point.
D'accord.
Voilà, qui est l'un des pionniers du pochoir, le pionnier du pochoir, qui est un mec extraordinaire, qui doit maintenant avoir, je ne sais pas, 65 ans, un truc comme ça.
Okay.
Mais voilà, et qui est malheureusement sous-évalué parce que c'est quand même un personnage important. Et donc, je l'ai rencontré, je suis allé dans son atelier, chez lui, tout ça, on a discuté, je l'ai filmé, tout ça, c'était extraordinaire. Il m'a montré plein de trucs. Et puis, j'ai voulu continuer avec les gens qui faisaient le pochoir, mais surtout, je me suis dit, bon, pour en parler, il faut que je sache comment ça se passe, vraiment. Du coup, je me suis dit, je vais tester, je vais faire un pochoir.
Décortiquer le truc. Ouais.
Voilà, déconstruire pour mieux en parler. Et en fait, j'ai commencé. Et puis,
Et ça t'a plu, quoi?
Ça m'a plu, puis j'ai jamais arrêté, parce que je trouvais que c'était une technique assez extraordinaire, comme ce que Banksy fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé l'art, parce que je viens d'une famille qui s'intéresse à ça, et qui est aussi, d'une certaine façon, artiste aussi. Je perds du fil.
tu parlais du pochoir, de la technique extraordinaire que c'était, que c'est à tes yeux, en tout cas.
Oui, parce qu'en fait, moi, je ne me suis pas entraîné pendant des années, depuis l'âge de 10 ans, au dessin, etc.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai pas la patience pour le dessin. Et du coup... c'était une façon pour moi d'exprimer des choses, de faire passer pas forcément des messages, mais juste d'exprimer des choses, des émotions, etc. Et avec juste de la patience, parce que ça demande pas du talent, ça demande juste de la patience et de la compréhension en termes de layers, de couches, de matrices.
Mais c'est marrant, parce que tu dis que t'avais pas la patience de t'exercer au dessin, enfin de dessiner longtemps, mais le pochoir, ça demande quand même une patience extrême, quoi. Et du temps aussi, de l'implication.
Oui, alors c'est vrai, ça demande beaucoup de temps, mais en fait, au bout d'un moment, au début, tu te dis, ouais, j'ai tout ça découpé, c'est l'enfer. Et tu commences, et puis au bout d'un moment, tu rentres dedans, tu te mets un documentaire en fond, un livre audio, n'importe quoi. Et puis, ça y est, c'est parti. Et moi, je me suis fait des jours où je découpais 15 heures, 17 heures d'affilée. Je me mettais des livres audio de Ken Follett, tu vois, des pages,
vois,
machin.
C'était dans la zone,
c'était génial, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Puis, je passais des nuits entières et tout à découper. Ça, je rentrais chez moi, j'étais éclaté. Et voilà.
Ok, donc ça a été, voilà, comment t'as mis un pied là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que t'en as fait après? Enfin, je veux dire, les pochoirs, est-ce que direct, tu t'es dit, je vais aller les mettre dans la rue?
Ouais, au début, je me suis dit, de toute façon, ça doit être que dans la rue, c'est ça, ça doit se faire en vandale, machin, ouais. J'étais bourré de principes, alors que je venais de nulle part, j'étais personne. Bref. Mais voilà, c'était... je pense inconsciemment que c'était une façon d'avoir, d'accéder à une certaine crédibilité, j'en sais rien.
De te faire connaître.
De me faire connaître aussi. Non, parce que c'était pas le but au début. Au tout début, c'était pas de me faire connaître, c'était de provoquer des émotions chez les gens. Mm-hmm. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des regards, des portraits,
oui,
un peu burinés.
J'allais y venir parce que les visuels que tu choisissais, c'est quand même des visages hyper expressifs. Voilà, tu parles de visages burinés, donc assez marqués, tout ça. Enfin, c'était quoi? Est-ce que c'était le challenge aussi de les reproduire en pochoir?
Je me suis rendu compte que tout ce qui était enfant, etc., machin, c'était, comment dire, c'est très sympa, ça fait sourire, c'est des émotions positives, c'est bankable et tout, mais techniquement parlant, c'est pas intéressant, tu vois, ça, surtout au pochoir, ça fait des textures plates, etc., ou alors il faut faire un gros travail en post-prod de photos.
Avec des contrastes, etc., pour avoir des, voilà, des découpes différentes.
Bah, pour avoir du détail,
Et parce que sinon, en fait, je vois la joue d'un bébé, par exemple, ça t'aurait fait un gros...
voilà, t'as un gros aplat dans la lumière, un contour, un cercle pour etc.
Bref. Okay. Qu'un visage buriné te donne plus de matière, quand même.
Et ben, un visage buriné, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était que je pouvais diminuer le nombre de couches, mais par contre, augmenter le nombre de détails. Donc, je me retrouvais avec, en gros, ombre et lumière, mais avec infiniment de détails, ce qui faisait que, déjà, chaque couche, chaque matrice, indépendamment l'une de l'autre, marchait, si je la peignais quelque part. Mm-hmm. Mais quand je combinais les deux, eh ben, on avait à la fois quelque chose de suffisamment réaliste pour que ce soit agréable et surprenant, et en même temps de suffisamment graphique pour qu'on reconnaisse que ce soit pas que c'est du pochoir à la bombe, etc., que c'est découpé minutieusement, mais que c'est pas non plus du photoréalisme.
Ouais. C'est l'impression qu'on a, surtout, je pense par exemple au visage que tu as fait quartier Méditerranée sur un portail,
ouais,
que dans les visites guidées on le montre toujours parce que c'est une référence et puis ça demande beaucoup d'heures de travail, etc. Je pense qu'au premier abord, ou en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'œil ou quoi, on se dit pas forcément que c'est du pochoir, on dirait que ça a été peint, touche par petite touche. Il y a un côté aussi, je trouve, avec le pochoir, ou en tout cas avec ta technique et les visuels que tu choisissais à l'époque, on dirait que c'est des touches de peinture.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup...
Merci.
C'est une technique qui n'a pas forcément très bonne... Très bonne presse dans le milieu artistique, tu vois. On entend plein de trucs, tu vois. Ouais, les pochoiristes, ils savent pas dessiner, c'est pas de l'art, machin.
Ah ouais, d'accord.
J'ai entendu beaucoup de trucs comme ça, tu vois.
Ok.
Et ajouté au syndrome de l'imposteur qu'on a plus ou moins tous.
Oui, c'est sympa.
Du coup, j'ai toujours eu envie de pousser mes pochoirs au maximum pour en faire quelque chose, pour montrer aux gens en disant bon, regardez, on peut
faire quelque chose. Il y a une vraie technique, il y a vraiment
un peu comme des mecs, tu vois, comme Logan X aux États-Unis, Sneak Art, Sneak en Angleterre, des mecs comme ça, C215 en France, Jeff Aerosol, etc., mecs qui ont chacun un peu leur technique, etc., mais qui en font quelque chose aussi beau et aussi valorisant techniquement que toute autre peinture, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas personnellement.
Ok.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé vraiment d'y apporter quelque chose d'unique. Et en même temps, c'est pas forcément très connu des gens. Du coup, c'est très agréable dans les expos de passer du temps à leur expliquer, etc., parce qu'ils se rendent pas compte. Ils ont l'impression que des fois que c'est photocopié, ils ont l'impression que, je sais pas, c'est du collage ou des trucs comme ça. Et en fait, quand tu leur expliques derrière tout le temps passé, etc., machin, ils apprennent, t'as l'impression de leur apprendre quelque chose, donc c'est cool, quoi.
Oui, donc du coup, ça pose question. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est chouette aussi, je trouve, c'est que tu comprends pas directement comment c'est fait.
Ouais,
tu vois, t'as cette interrogation là de te dire Je comprends pas. Quelle est la technique? Enfin, comment il a fait? Est-ce qu'effectivement, c'est au pinceau des petites touches de couleurs comme ça? Ou est-ce que, oui, c'est un pochoir ou je sais pas, mais il y a du coup cette question-là qui se pose sur la technique et qui fait. Enfin, voilà, comme tu dis, ça apprend aussi aux gens, quoi. Enfin, une démarche qu'ils connaissent pas forcément.
Ouais.
Parce que t'as peut-être la. On imagine peut-être le pochoir comme une espèce de découpe, hop, je peins et puis je le refais plusieurs fois, enfin, tu vois.
Ça, en fait, ça peut aussi être ça, tu vois, Banksy. Moi, je me souviens quand j'ai vu son film, là, Exit Through the Gift Shop, Faites le mur. Tu vois, il y a un moment, il y a un tout petit passage dans le film. Alors, ici, c'est Banksy, toujours pareil, mais bon, bref. Le mec, tu le vois, il est avec un carton qui est déjà plus ou moins découpé. Il arrive avec son cutter en plein milieu de la rue, il découpe son truc à l'arrache et hop, il le peint, tu vois. Et je me suis dit, attends, Banksy, là, ces pochoirs, il les fait comme ça, en deux à l'arrache, dans un bout de carton éclaté et tout. Ok, d'accord. Bref, et ça marche très bien. Donc, tu vois, il y a aussi plein de façons différentes de faire qui sont tout aussi percutantes. Tu vois.
Oui, complètement.
Mais bon, moi, je suis un con, j'ai choisi la minutie, quoi.
Non, bah après, je trouve que dans le discours aussi, c'est... Enfin, quand on fait des visites guidées, par exemple, je sais qu'à chaque fois... Alors, je sais pas si notre guide actuel en parle aussi, mais en tout cas, à l'époque, quand c'était Jean-Claude, il disait toujours que ce pochoir, il avait pris combien d'heures, tu vois, à faire.
Oui.
Et les gens, ils étaient complètement ébahis. Ils se disaient, ah ouais, mais j'aurais jamais cru. Enfin, tu vois, le travail de découpe, ça demande une telle minutie, comme tu dis, une telle patience. Enfin, et je trouve que ça donne une envergure à l'œuvre. Autre quoi.
Bah ouais, alors après ça, chacun le voit, mais en tout cas je prends le compliment.
Alors on va faire une petite pause musicale comme on fait d'habitude quand je reçois un artiste, et on va écouter le morceau 12 Kawa, le morceau artiste par 12 Kawa que tu affectionnes particulièrement, et on revient juste après.
J'ai connu tellement de bitches quand t'es artiste, les strings s'abaissent. Je crois que ces filles méritent des gifles sur les joues de leurs fesses. C'est comme si leurs sous-vêtements avaient la domotique sans fil. J'ai parfois le sentiment d'être une télécommande sans fil. J'ai soigné mon relationnel avec du beurre de karité, mais le tissu cicatriciel est de bien piètre qualité. Je marche avec le ventre ouvert, je ressens le froid de Vancouver. Jusqu'à Marseille sous les capuches, c'est pour rester du vent couvert. Et plus je vois le temps passer, moi je comprends qui je peux être. Je crois qu'à force de se chercher, on finit toujours par se perdre. J'aimerais qu'on m'excuse par avance pour me prendre pour Romain Gary. On reste un enfant quand on pense être enfin humain, aguerri. Parfois je crois que je suis triste, des erreurs de choix professionnels. Moi je voulais simplement devenir un genre de nageur dans le ciel. Je prête au son, aux mesures et à la séduction du public. Des prétentions si démesurées que j'aurais pu être juif. Toute l'éloquence pour moi n'est qu'un moyen de séduction. Pour acheter une vie d'otage, tout ce que je peux offrir c'est du son. On cherche toujours des solutions sans vraiment connaître le problème. Être artiste, mission suicide, détruire l'ennemi c'est toi-même. Paraît qu'on t'aime. Des followers, des gens qui dansent, je crois lorsque je rédige des poèmes. Écrire c'est hurler en silence. Garde tes amis près de toi, tes ennemis plus près toujours. Depuis que j'ai conscience de ça, c'est ce que je me dis quand je fais l'amour. Je ne sens que le sens des proses dans mes narines canidéiques. Je cherche l'essence des choses comme un Derrick. Et j'entends dire et l'artiste. J'entends dire, et l'artiste. Hey. Être artiste c'est pas très sain, c'est même pas un métier très sûr. Ma chérie j'ai pas très faim, peut-être j'ai trop léché mes blessures. Paraît que c'est des scénars d'autistes et que c'est pour ça que mon art est triste. Parfois quand je retourne au quartier, même mes proches me traitent d'artiste. Être artiste c'est pas très sain, c'est même pas un métier très sûr. Ma chérie j'ai pas très faim, paraît que je fais un truc pas sécure. Paraît que c'est des scénars d'autistes et que c'est pour ça que mon art est triste. Quand je retourne au quartier, même mes proches me traitent d'artiste. Yeah. Je m'en bats que les produits sont en parle ou si les projets sont bancals. Je désire pas posséder grand chose à part des projections mentales. Je pourrais dépasser tous vos raps juste en plaçant le mauvais stibule. C'est trop facile d'être à part car je vois bien que le reste est nul. Et je suis séduit par le hip hop, je lui glisse la main sous le pull. Même si le rap est une salope qui du reste simule et me demande ouvertement à quoi tu sers si tu veux pas faire de l'argent. Je lui dis ici il faut des artistes tant que c'est dark dans les récits qu'on interroge des journalistes. Au quatrième sous-sol des logos de la DGSI, un guerrier à Chachine. Mais dans ce crime c'est moi le mort, je donne de mon âme à chaque crime. Comme les Horcrux de Voldemort, les mots d'amour se dissipent peu. Les désastres sont dans les rues. En attendant que la nuit se dissipe, j'ai mis désastre dans les nuits. Naufragé qui affabule dans la nuit déferlante. Tous mes seuls phares fabuleux n'étaient que des étoiles filantes. Être artiste c'est pas très sain, c'est même pas un métier très sûr. Ma chérie j'ai pas très faim, peut-être j'ai trop léché mes blessures. Paraît que c'est des scénars d'autistes et que c'est pour ça que mon art est triste. Parfois quand je retourne au quartier, même mes proches me traitent d'artiste. Être artiste c'est pas très sain, c'est même pas un métier très sûr. Ma chérie j'ai pas très faim, paraît que je fais un truc pas sécure. Paraît que c'est des scénars d'autiste et que c'est pour ça que mon art est triste. Quand je retourne au quartier, même mes proches me traitent d'artiste. Arachnide à la prod. Et
moi-même, paraît que je suis resté un sale gosse. Même si l'enfance est partie vite comme l'éjaculation précoce. Freestyle, 12 kawa. A tous ceux qui médisent par jalousie, ce que vos meufs vous disent pas au lit, c'est qu'avant qu'on se connaisse, elles savaient pas qu'elles faisaient de la disparonie. Yeah. Arrive, je disparais dans la nuit. Mais la solitude fait que je reviens. Un jour la musique me dira kawa, j'ai retrouvé les tiens. En attendant, portez-vous bien. Pays nomade. Pays nomade.
Nous sommes de retour avec Oz. Pourquoi d'ailleurs
attends,
ce...
Attends, je fais une parenthèse, mais 12 kawa, franchement, allez écouter le reste de ces chansons parce que c'est...
Pourquoi tu nous as proposé 12 kawa du coup? Quel est le... Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Bah, parce que je suis fan depuis, je sais pas, pareil, ça doit faire pas loin de 15 ans, à l'époque où il était avec... il avait son groupe, le TKIC, avec d'autres mecs, Triste Clan Célèbre. Et je sais pas, il rappe d'une façon que j'adore, une espèce de rap conscient, mais en même temps, il mélange... le lyrique avec je sais pas avec des avec enfin je sais pas, il y a un univers que j'adore aller écouter. Et puis je sais pas, je trouve qu'on a ces chansons, il faut quasiment les lire avec une encyclopédie parce que c'est bourré de références de l'humain, la mythologie, etc., philosophique. Et du coup moi j'ai appris plein de trucs et,
c'est ton côté intello un peu.
Ouais, je sais pas, mais voilà. Et en même temps, il y a des instrus de ouf. Donc, voilà.
Non, mais c'est bien parce que chaque artiste a vraiment me propose toujours un morceau tellement différent d'un artiste à l'autre. Enfin, ça n'a rien à voir, donc c'est cool pour nos auditeurs. Ça fait, voilà. Ça enrichit un peu leur culture musicale. Donc, on parlait du pochoir juste avant cette petite interlude musicale. Donc, tu faisais beaucoup de portraits.
Oui.
Du coup.
Oui.
Moi, quand je t'ai connu, quand je suis arrivée chez Line Up, c'était encore ça.
Ouais.
Et puis, tu as bifurqué à un moment donné pour proposer quelque chose de très, très abstrait.
Alors, je faisais des portraits et à un moment, je suis passée sur les épaves aussi.
Ok.
Il y a eu le travail sur la rouille.
Oui. Oui, je me souviens de ça.
Etc. Donc, ça, c'était cool.
Et pourquoi d'ailleurs la rouille?
Eh ben, c'est une technique qu'on avait développée avec mon colloque d'atelier il y a quelques années, là, Christophe Monteil. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je trouvais ça génial de pouvoir faire des œuvres sans peinture.
Ah.
C'est-à-dire que c'était sur métal et c'était peint uniquement avec de l'eau de mer et de la bombe anti-rouille.
Voilà. D'accord.
C'était et de l'eau de mer que j'allais chercher là à côté à Palavas,
quoi. À la plage, quoi.
Donc et ça, alors je sais pas si j'ai inventé un truc, hein, mais quand j'ai commencé à faire ça, j'ai adoré. Mais le truc, c'est que bon, ça faisait des œuvres en métal, souvent des grands formats, et c'était des œuvres assez lourdes. Et comme j'ai le physique d'un coton-tige mouillé, voilà.
J'aime beaucoup la comparaison.
C'était compliqué, quoi.
Ok, d'accord. Mais bon, intéressant. Peut-être que tu reviendras un jour.
J'y reviendrai peut-être un jour parce que j'ai fait à peine que gratter la surface de l'univers qu'il y a avec, de ce qu'on peut faire avec la rouille.
Ok. Et donc, ce passage dans l'abstrait, je me souviens notamment de l'exposition XYZ à Pierre Vive.
Tout à fait,
où j'ai
avec
pu voir
Adrien,
ouais, et Mathieu Lucas.
Et Mathieu Lucas.
Où je pense que c'était
Que je salue au passage, n'est-ce pas?
Mais bien sûr. qu'on recevra bientôt Enaer au micro de Divergence. Je pense que c'est la première fois. Alors, tes œuvres, je les avais déjà vues, mais c'est la première fois que je les voyais en expo. Effectivement, par rapport à ce qu'on connaissait de toi, bah, c'était quand même très, très différent. Qu'est-ce que tu as voulu explorer? Qu'est-ce que tu as voulu faire?
Bah alors là, il faut rentrer dans la partie
un peu sombre.
Ouais, un peu sombre, un peu émotion.
Vas-y, vas-y.
Ça a été un moment un peu dur. En fait, ça a été une phase, quasiment du jour au lendemain, j'ai arrêté le pochoir et je me suis mis à faire de la peinture abstraite, très brute, pas brutale, mais très brute. Il n'y avait pas beaucoup de réflexion, il fallait que ça sorte comme ça.
Ok.
Et sur des tons bleus, gris, noirs, etc. Et c'était un moment horrible. Je venais de perdre mon frère, j'avais la santé qui déclinait.
J'avais eu mon accident de moto où je m'étais pété la jambe, je boitais, j'avais toujours les douleurs. Je divorçais, enfin bref, c'était un moment...
Oui, c'était vraiment le...
Il y a eu un enchaînement.
Ah oui, oui, c'était...
Waouh, tu t'es dit, est-ce que tu vas t'en sortir, quoi ?
Ouais.
Bref, et du coup, j'ai eu un moment où il a fallu que...
Que t'exprimes tout ça.
En fait, je voulais faire l'opposé du pochoir d'un coup. Tu vois, il fallait. Le pochoir, c'est très minutieux, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, etc. Mm-hmm. Là, il fallait que je sorte quelque chose de très brut et, et avoir un contact avec la toile, mm-hmm. chose que je n'avais que j'ai jamais avec le pochoir. Un contact direct, tu vois, pinceau toile.
Et que tu jettes un peu tout ça.
Voilà. Et puis, c'est un truc que j'ai toujours. Voulu faire au moins une fois, c'est-à-dire un jour, comme beaucoup de gens nous disent et qu'ils aimeraient faire un jour, c'est-à-dire tu mets une toile au mur et tu te lâches. Et peu importe ce qui sort, tu t'en fous. T'y vas et tu le sors. Et l'idée, c'était pas du tout que ça plaise ou quoi, c'était vraiment si moi ça me plaisait, c'était déjà bien. Mmh. Et alors sur le moment, j'ai fait des trucs que j'aimais bien. Et aujourd'hui, quand je revois cette phase-là, qui a été très bref, mais quand je revois cette phase-là, je me dis, bon, il y a des trucs qui ne sont pas inintéressants, mais c'était quand même très dark. Et c'était, c'est juste de la peinture jetée. Mais curieusement, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit, mais on reconnaît que c'est toi quand même. Alors, je n'ai jamais compris comment ils ont réussi à faire le lien entre le pochoir et ça. Mais certains qui me connaissaient disaient, quand on te connaît,
on te reconnaît que c'est toi.
Donc voilà, et en fait c'était un travail, je ne faisais pas n'importe quoi sur la toile, c'était pour le coup un travail sur l'écriture. Parce que moi je suis gaucher, et tous ceux qui sont gauchers savent que quand on est petit, c'est une galère, tu vois, on en fout partout, bave, etc. Bon, bref. Et c'est difficile d'avoir une belle écriture, etc. Et donc je me suis toujours demandé, s'il n'y avait pas eu la contrainte d'écrire de gauche à droite, etc., comment chacun de nous écrirait, en fait. Mm-hmm. Et du coup, c'était un travail sur l'écriture intuitive. Donc moi, j'écrivais de droite à gauche, avec une certaine gestuelle. Et au bout d'un moment, on se rendait compte qu'il y avait des lettres, en fait, qui ressortaient, des lettres imaginaires, mais des lettres. Et comme si c'était un alphabet imaginaire. Et bref, c'était très jeté, mais en même temps, il y avait une certaine structure. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Voilà, c'était la base du travail. Et après, c'était des zooms, des dézooms, etc. Mm. Voilà.
Ok. Donc oui, avec le recul, tu te dis, tout n'est pas inintéressant, mais c'était surtout d'exorciser un moment.
Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'en exposerai pas 10%, tu vois, mais je pense que certaines, je pense que j'aimerais bien les garder, et d'autres, y en a une ou deux à laquelle je pense, qui ont été vendues, et je suis contente qu'elles existent.
T'es contente ? Ouais, si t'es contente, c'est bien.
Ouais, je suis contente. Ouais. J'ai dit ça,
oui.
Je suis content.
Oui. Quand tu écouteras, quand tu t'écouteras.
Ah, pas le patriarcat.
Voilà, c'est ça. Tant que t'es contente, tout le monde est content.
Ah, ouais, donc voilà. Et je suis content que ces toiles existent. Non, en fait, voilà.
Ok. Et donc, ces dernières années, t'es revenu au pochoir.
Oui.
Finalement.
Oui.
Mais oui. Oui, ok.
Tout à fait, Laura.
T'es revenu au pochoir, mais tu explores quelque chose de complètement différent, puisqu'on est plus sur des portraits de visages burinés.
Tout à fait.
On est sur de la matière, on est sur de la roche.
Ouais.
Mon
gars.
Ouais, alors. Tu vas faire quoi? Comment tu t'es arrivé en fait à ça? Enfin, pourquoi?
C'est là où. Donc, on passe le creux de la vague, justement, après toute cette période qui a quand même duré...
Un petit moment,
hein. toi, t'étais là.
Oui, parce que j'étais là, tu dis que c'était bref, mais en fait, ça a duré quand même un petit moment.
Oui, non, je parlais de la période de peinture, parce qu'il y a un moment, après, j'avais plus ni la santé mentale, ni la santé physique pour peindre et tout. Du coup, j'ai arrêté de peindre. Et là, il y a eu plus d'un an où je suis resté chez moi, j'ai plus rien fait, machin. J'avais la santé qui déclinait, j'étais vraiment très 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 mal. J'avais divorcé, je vivais très mal la mort de mon frère, etc. Bref. Et surtout, j'ai eu, je peux en parler parce que quand même c'est important de parler de ça. J'ai eu une grève du foie, une grève du foie totale en 2021. Et à partir de là, du coup, les choses se sont apaisées et j'ai remonté la pente. Donc, le temps de me remettre de la greffe. Mmh. Ensuite, je suis parti vivre à Valence. Et tout le monde me disait, ah, tu verras tout ce qui t'est arrivé, tu verras, ça va t'inspirer, ça va t'inspirer. Je me demandais, ok, ça va t'inspirer. Ouais.
Je sais pas comment.
À part dessiner des foies, tu vois, je vois pas ce que... tu vois, bref. Bon, et finalement, tu vois, j'ai essayé de réfléchir à tout ça et je me suis dit, bon, il y a plein de trucs. Ça, franchement, je crois qu'il y a eu un avant et un après, tu vois. Ça m'a vraiment bien traumatisé. Et
ouais.
Mais et c'est des choses que je vais pas pouvoir oublier. Je pense que ça m'a un peu transformé, etc. Mais... je me rends compte qu'avec le temps, ça se supporte un peu mieux, tu vois. Mm-hmm. Ça, ça,
tu apprends à vivre avec aussi.
J'apprends à vivre avec, ça s'allège un peu, en fait.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, c'est comme quelque chose de très lourd qui, petit à petit, s'allège. Et du coup, voilà, j'ai transposé ça sur la toile et je me suis dit, bah, voilà, qu'est-ce qui est très lourd, qu'est-ce qui est la représentation de quelque chose de très lourd. Tu vois, ce paradoxe lourd-léger, tu vois, là, j'invente rien, mais... Du coup, j'adorais la roche et il y a eu une phase à un moment où je m'intéressais aux fragments de bas-reliefs, etc., ouais. antiques. Et je trouvais ça hyper intéressant, ce travail de matière au pochoir avec la roche. Mais c'était encore trop figuratif. Et du coup, je me suis dit, mais la roche, en fait, la roche, le rocher, vraiment, il fallait que ce soit immense, fallait que ce soit gros, fallait que ça nous surplombe.
Okay.
Tu vois, et essayer de le mettre en lévitation. Voilà. Prendre ce trauma, tu vois, ces traumas qu'on vit et qu'on peut pas oublier, et on est obligé de vivre avec, mais par contre avec le temps,
bah,
voilà,
alléger,
ça s'allège et puis bah ça s'érode comme ces rochers, mm-hmm. voilà, ça met beaucoup de temps comme ces rochers, mais au final, bah soit ils s'allègent, ils finissent par disparaître, soit ils deviennent un peu plus vivables, je sais pas.
Oui, bah tu apprends à vivre avec et puis
ouais.
Je pense que le souvenir. Se fait plus petit ou je pense que c'est des étapes que tu oublieras jamais de toute façon mais elles s'allègent avec le temps quoi.
Ouais,
elles deviennent moins lourdes à porter.
Et elles deviennent moins lourdes à porter et d'une certaine façon le rocher en s'érodant, mm-hmm. c'est ça en s'érodant.
Ouais, je pense.
Comme si il s'érodait et me transmettait sa force,
okay.
tu vois, sa résilience
okay.
face au temps. Donc, tu vois, il y a un peu ce rapport-là, tu vois. Plus lui s'érode et plus moi, je me renforce, en fait.
OK.
Plus il s'allège, plus je me renforce. Donc, il y a un peu ce rapport-là.
Un échange avec la roche.
Ouais. Bon, en même temps, là, je suis en train de te dire ça, je le réalise en le disant.
Ah.
Là, on est sur du freestyle total. c'est la première fois que je le dis. Et je me rends compte qu'il y a peut-être ça, tu vois, ce côté où, inconsciemment, voilà, je me dis, quand le rocher s'érode, bah, effectivement, moi...
C'est comme s'il perdait un peu de matière au fur et à mesure et pour devenir de plus en plus léger en fait.
Voilà, que ce trauma petit à petit se disséminait un peu dans le reste de l'univers.
Ok. Et donc là, du coup, on est dans ton atelier et je vois que tu bosses sur des toiles parce que tu as une expo bientôt.
Tout à fait. J'expose. Chez moi, à Aigues-Mortes.
Oui, pas dans ta maison, mais chez toi, dans ta ville.
Si, venez tous
chez moi.
alors c'est à la chapelle des Capucins d'Aigues-Mortes.
Ok.
Donc c'est quand vous allez à Aigues-Mortes, vous cherchez la grande place Saint-Louis et vous pouvez pas rater. C'est là, chapelle des Capucins. Donc à partir du 9 mai.
Ok.
Voilà, j'ai pas encore le nom de l'expo, mais ce sera transmis.
Ça va venir.
Attends.
Et du coup, là, ça fait quelques toiles déjà que tu réalises en peinture à l'huile.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Alors, on a quelques minutes pour en parler. C'est quelque chose que t'as toujours voulu explorer, la peinture à l'huile. Enfin, comment tu...
En fait, toute ma petite vie de pochoiriste, je me suis battu contre le syndrome de l'imposteur.
Mm-hmm.
Et j'ai toujours admiré ce côté un peu peinture classique, etc., tout en admirant l'art contemporain et l'art abstrait. Et j'ai toujours eu envie, j'ai adoré le pochoir, ça m'a fait mettre un premier pied dans le milieu de l'art, mais j'ai jamais eu l'impression de mettre le deuxième. Et effectivement, j'ai eu ce blocage pendant des années, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Et puis, je sais pas, là, à partir de janvier, d'un coup, j'ai eu un déblocage après une grande phase où j'avais, tu vois, la page blanche. je venais à l'atelier, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et voilà, d'un coup, je me suis dit, allez,
vas-y.
J'ai envie de faire ça. Donc, j'ai commencé par peindre une barque Voilà, un matin, je me suis levé, j'avais envie de peindre ça. Et ça m'a débloqué. Et je me suis dit, eh bah, vas-y, peins des rochers. Et je me suis lancé sur toujours ce travail de rocher, mais cette fois-ci, plus au pochoir, mais à lui. Voilà, qui est un c'est très sympa à bosser. C'est complexe, je trouve.
Ouais.
Franchement, c'est pas facile, mais le résultat est plutôt plutôt sympa, quoi.
Le résultat est top. Enfin, pour les avoir sous les yeux et les avoir vus sur les réseaux, ouais, le résultat
c'est
est
sympa.
Ouais, et vraiment vraiment très très cool. Et ça change du pochoir, mais je trouve que ça amène vraiment autre chose.
Ouais.
C'est vraiment autre chose. Enfin, pour moi, c'est pas comparable.
En fait, le lien, il est fait par la roche.
Le lien, exactement. Mais après, la technique, je trouve qu'on n'y voit pas la même chose. Mmh. Finalement, la roche, on la voit pas de la même manière. Enfin, là, je vois celle qui est là-haut, là.
Ouais,
ça transmet pas du tout la même chose. Il y a quelque chose presque de plus apaisé.
Ouais, bah oui, bah, c'est ça. Hein. le bonheur retrouvé.
Oh, c'est beau.
La vie qui est un peu plus douce, ouais. C'est cool d'être dans cet atelier avec Camille et Arnaud. J'apprends plein de trucs. Il fait beau.
Les oiseaux chantent, etc.
Voilà, c'est sympa. J'ai retrouvé l'amour.
Donc
non, c'est cool.
Et ben c'est sur ces notes positives qu'on termine cet épisode. Merci beaucoup Olivier de m'avoir accueilli dans ton atelier.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Mais oui, merci à nos auditeurs et à bientôt. Merci Camille.
Merci.
Et à bientôt pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Allez, ciao.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.